Lucie et Daisy engagèrent un débat avec Étienne, mais ils n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent, s'emparèrent de lui et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Alors que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin le fixaient, ils virent son visage comme celui d'un ange. Et je vais lire maintenant, page 1070, au chapitre 7, verset 48, et jusqu'au premier verset du chapitre 8. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous ? Dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné, vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. Ceux qu'ils entendaient les exaspérer, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Saul a prouvé le meurtre d'Étienne.
Merci Marion. Comme Joe l'a dit tout à l'heure, ce soir nous reprenons une série que nous avions mise de côté pour un temps et qui porte sur le livre des Actes. Alors le livre des Actes a été rédigé par Luc, qui a également écrit l'évangile du même nom. On voit bien que l'évangile de Luc c'est un peu le tome 1 et les Actes c'est un petit peu le tome 2. Et les Actes nous montrent comment le message chrétien, centré sur la mort et la résurrection de Jésus, par lesquels Dieu s'est réconcilié avec les hommes, ce message s'est répandu en quelques décennies dans le monde connu de l'époque, c'est-à-dire en fait tout le bassin méditerranéen. Après sa résurrection, Jésus a envoyé ses premiers disciples et il les a envoyés avec une mission qui nous est donnée tout au début du livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la mission des disciples, c'est d'être témoins de Jésus dans le monde. Ce n'est pas forcément de faire des choses extraordinaires par leurs propres moyens, mais c'est simplement de témoigner d'un autre, de témoigner de Jésus. Ça commence très localement, donc là même où Jésus est mort et ressuscité, à Jérusalem, puis dans la région environnante, en Judée et en Samarie, ce qui correspond à peu près à la Cisjordanie actuelle, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce mouvement par étapes, d'ailleurs, on va le retrouver au fil du livre des Actes, un peu comme un fil conducteur. L'action commence à Jérusalem, ensuite elle se poursuit en Judée et en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, symbolisée par la ville de Rome, qui était la capitale, en quelque sorte, du monde connu de l'époque, la grande puissance de l'époque. Et donc, même si, bien sûr, les extrémités de la terre, ça va beaucoup plus loin que ça, dans le livre des Actes, on voit que, en quelque sorte, arrivé à Rome, eh bien, la mission, une part décisive de la mission a été accomplie, l'évangile est annoncé aux extrémités de la terre. Mais là, on va reprendre le fil de ce récit à la fin de la première étape, c'est-à-dire à Jérusalem. Et le héros, entre guillemets, du texte de ce soir, c'est Étienne, qui n'était pas l'un des 12 apôtres, mais qui faisait partie de la toute première communauté chrétienne à Jérusalem. Alors, parce qu'il annonçait avec une audace impressionnante que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Étienne s'est vite retrouvé accusé de blasphème par les autorités religieuses de l'époque. Et le texte de ce soir, dont Marion a lu deux extraits, en fait le début et la fin, ce texte correspond en majorité à un long discours d'Étienne, c'est pour ça qu'on n'a pas tout lu, parce que ça aurait pris un certain temps, un discours dans lequel il retrace l'histoire d'Israël, Étienne est lui-même juif, hein. Il retrace l'histoire donc de son peuple, l'histoire d'Israël, pour montrer à ses accusateurs que ce sont eux, en fait, qui blasphèment Dieu en rejetant Jésus. Alors, nous n'allons évidemment pas pouvoir suivre le texte verset par verset, je vous rassure à ce sujet, mais je vais vous proposer une synthèse, on va voir en trois temps, mais je signale que le deuxième point sera un peu plus développé que les deux autres. Une double accusation, une double réfutation et un double témoignage. D'abord, une double accusation. On n'a pas beaucoup de détails concernant les accusateurs d'Étienne ici. Le verset 9 nous dit que ce sont des membres de la synagogue dite des affranchis, sans doute des personnes issues de diverses régions de la diaspora juive, en fait le texte le dit assez clairement. Et donc il semblerait qu'il s'agisse d'une synagogue qui rassemblait des juifs revenus en Palestine après avoir été exilés dans diverses régions de l'Empire romain. Et ce sont ces hommes, certainement très zélés dans leurs pratiques religieuses, d'autant plus qu'ils étaient revenus dans leur pays, qui sont les accusateurs d'Étienne dans ce récit. Alors précisément, le chef d'accusation, ou les chefs d'accusation, il y en a deux, c'est une double accusation. Ça nous est dit au verset 13. « Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu, c'est-à-dire le temple, et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Donc, d'après eux, Étienne aurait d'une part dénoncé le temple et d'autre part dénoncé la loi de Moïse. Et dans le contexte de la religion juive telle qu'elle était à l'époque, on ne peut pas imaginer pire comme accusation. Remettre en question le temple et remettre en question la loi, c'était vu comme une offense faite à Dieu lui-même. Le temple était vu comme la résidence de Dieu, le signe visible de sa gloire. La loi, elle, était au centre de l'alliance entre Dieu et Israël. Remettre en question la loi, c'était remettre en question la relation même du peuple avec Dieu. Au passage, ces accusations rappellent beaucoup celles qui avaient été formulées contre Jésus lors de son procès. On avait déjà accusé Jésus de vouloir détruire le temple de Jérusalem, en fait, il s'agissait de propos déformés. Jésus avait parlé du temple et on avait déformé ses propos en le faisant dire qu'il allait le détruire, ce qu'il n'avait pas dit. Et cette fausse accusation, on la retrouve aujourd'hui à propos d'Étienne, qui aurait affirmé, d'après ses accusateurs, que Jésus allait détruire le temple. Et là, on n'est pas longtemps hein, après la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, pas longtemps du tout. Et donc, c'est pas étonnant que ces mêmes accusations circulent encore. Mais le verset 13 nous dit clairement qu'il s'agit d'un faux témoignage, au cas où on avait un doute. Les accusateurs d'Étienne n'ont pas réussi à réfuter ces arguments, nous dit le texte, et donc ils cherchent à déformer ses propos pour le faire faussement accuser. Ça, c'est un procédé vieux comme le monde. Quand on ne sait pas quoi répondre à quelqu'un, on peut avoir tendance à vouloir s'attaquer à la personne ou à vouloir déformer ses propos. On voit ça tout le temps, à vrai dire. Voilà donc la double accusation contre Étienne. Il aurait dénoncé le temple et dénoncé la loi. Mais à cette double accusation, Étienne va opposer une double réfutation. Et c'est là qu'intervient ce discours qu'il va prononcer. Lorsqu'on est accusé de quelque chose, et notamment lorsqu'on est accusé à tort, le premier réflexe c'est de dire « mais c'est pas vrai ». C'est ce que vous dites sur moi, c'est pas vrai. Et on réplique aux arguments pour montrer son innocence. C'est tout naturel. Alors, pour Étienne aussi, on aurait pu penser que la méthode naturelle pour se défendre aurait été de calmer ses accusateurs et de leur dire « mais non, vous avez mal compris, vous avez déformé mes propos, c'est pas ça que je voulais dire ». Au lieu de cela, il va retourner l'accusation contre ses accusateurs, ce qu'on fait assez rarement lorsqu'on est mis en difficulté, lorsque on est accusé avec potentiellement une peine qui sera prononcée contre nous. Là, c'est ce que Étienne fait. Il y a deux semaines, dans ce feuilleton qui n'en finit plus, et je suis presque désolé de faire une référence à ça, notre Dominique Strauss-Kahn a été amené à se défendre des accusations qui pèsent contre lui. Alors, je ne me prononce absolument pas sur le fond de l'affaire, je vous rassure. C'est juste un exemple. Mais en tout cas, c'est à peu près certain, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette garde à vue, c'est à peu près certain que DSK n'ait pas accusé les policiers d'avoir eux-mêmes commis le crime dont il est accusé. Certainement pas. Je ne pense pas qu'il ait dit aux gens de la police judiciaire de Lille « Mais non, c'est vous qui êtes coupable de proxénétisme et d'abus de biens sociaux. » Il a simplement plaidé son innocence vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Étienne, lui, est accusé d'avoir dénoncé le temple et la loi et donc de s'être opposé à Dieu. C'est encore beaucoup plus grave. Mais il va accuser à son tour ses accusateurs de s'opposer eux-mêmes à Dieu. En ce qui concerne les deux points justement dont il l'accuse, en ce qui concerne le temple et la loi. Donc il va répondre vraiment directement à ces accusations. Et il le fait en prenant quatre exemples dans l'histoire d'Israël. Quatre exemples chronologiques. D'abord, il va faire référence à l'époque d'Abraham, puis à celle de Joseph, quelques générations plus tard. On est là au temps des patriarches, deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Puis il parle de l'époque de Moïse. Et enfin, il parle de l'époque de David et de Salomon. Donc quatre périodes clés dans l'histoire d'Israël. Quatre périodes qu'Étienne va prendre en quelque sorte comme des études de cas pour démontrer son propos. Alors qu'est-ce qu'il affirme en réponse à ces accusations? Eh bien, puisqu'il est accusé à propos du temple et de la loi, il va parler d'abord du temple et ensuite de la loi. Alors commençons par le temple. Dans sa réponse, c'est un peu comme si Étienne disait à ses accusateurs « Vous voulez parler du temple? Eh bien parlons-en, justement, du temple. » Et là, je paraphrase un peu Étienne. « Vous sacralisez ce temple comme s'il était le lieu véritable où Dieu réside, alors que la présence de Dieu ne peut jamais se réduire à tel ou tel lieu. » Voilà encore, en quelque sorte, il me semble, la thèse d'Étienne dans son discours. On ne peut pas réduire Dieu à un lieu, même le temple de Jérusalem. Et Étienne cite les exemples de l'histoire d'Israël qui montrent cela. Tout d'abord, Dieu est apparu, versets 2 à 8 du chapitre 7, Dieu est apparu à Abraham, non pas dans la terre promise, mais là où il habitait à l'origine, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et Dieu a accompagné Abraham en terre promise, en Israël. Puis il est entré en alliance avec lui, et tout ça alors qu'il n'y avait pas de temple. Ensuite, versets 9 à 19, Dieu a permis que Joseph, qui était l'arrière-petit-fils d'Abraham, soit emmené comme esclave en Égypte, loin de la terre promise. Et c'est là-bas, en Égypte, que Dieu a fait prospérer Joseph. C'est en Égypte que Dieu a accordé sa bénédiction à la descendance d'Abraham, qu'il a fait grandir le peuple, qui deviendrait quelques siècles plus tard son peuple par alliance. Et tout ça, alors qu'il n'y avait pas de temple. Étienne passe ensuite à Moïse. Il commence par retracer l'histoire de Moïse avec pas mal de détails. Histoire qu'on peut retrouver au début du livre de l'Exode. Et puis, alors qu'il vient de parler de la fuite de Moïse dans le pays de Madian, il passe à un épisode clé de l'Ancien Testament. Et Étienne place cet épisode au centre de son discours. Je vous invite à lire les versets 30 à 34 du chapitre 7. Ça peut valoir la peine de les lire avec moi, page 1069, chapitre 7, versets 30 à 34. Donc c'est au moment où Moïse, après avoir assassiné un Égyptien, peut-être si vous n'avez pas lu l'Exode, vous avez peut-être vu le film Le Prince d'Égypte, pour resituer. Et ensuite, il s'enfuit et se retrouve dans le pays de Madian. 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse est étonné de cette vision. Et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur advint. « C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Et là encore, Dieu n'a pas besoin d'un temple pour être présent. Il va trouver Moïse là où il est. Et si la terre où Moïse se trouve est une terre sacrée, ce n'est pas parce qu'il y a un temple, mais c'est tout simplement parce que Dieu est là. Et Étienne va arriver à sa dernière étude de cas, l'époque des rois David et Salomon. Et à nouveau, la conclusion est la même. Et là, je vais lire les versets 44 à 50. Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, ainsi que celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçue, nos pères l'ont introduite avec Josué dans la possession des nations que Dieu a chassées devant eux. Elle y est restée jusqu'au jour de David, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui a demandé de trouver une demeure pour la maison de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit une maison, c'est-à-dire le temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Donc là, Étienne va enfoncer le clou. Parce que jusque-là, on aurait pu dire, mais oui, mais tout ça, c'est normal, ça arrive avant que le temple n'existe. Donc évidemment que on peut supposer que Dieu se révélait sans le temple. Mais même le temple de Jérusalem, nous dit Étienne ici, n'est qu'un symbole de la présence de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est propriétaire de tout l'univers. Verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Étienne cite ici le prophète Ésaïe. Donc le leitmotiv du discours d'Étienne, c'est que Dieu est plus grand que le temple. Maintenant, rappelons-nous ce dont Étienne est accusé. Il est accusé, à la suite de Jésus, de mépriser le temple. Et Étienne, par son discours, leur dit implicitement, mais vous n'avez rien compris. Jésus, le Fils de Dieu incarné, Dieu lui-même, venu parmi les hommes, n'est-il pas infiniment plus grand que le temple? Ce Dieu qui, dans l'histoire, a accompagné Abraham de Mésopotamie jusqu'en Palestine, puis qui s'est révélé à Moïse dans le désert, qui a établi le règne de David et Salomon, ce Dieu est venu en personne parmi les hommes. Et vous, les dignitaires religieux, vous lui préférez le temple? Vous préférez le symbole à la réalité? Vous avez Dieu en personne, littéralement en chair et en os, dans la personne de Jésus, et vous l'accusez de mépriser le temple, qui est le lieu symbolique de sa présence, tout simplement. Donc Étienne met en évidence le terrible aveuglement de ses accusateurs. Eux qui accusent Étienne de mépriser le temple sans s'en rendre compte, ils méprisent Dieu lui-même. Concernant la deuxième accusation, selon laquelle Étienne méprise la loi, sa réponse sera beaucoup plus brève, mais beaucoup plus directe. Et je relis le verset 51. « Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous maintenant vous avez livré et assassiné, vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges, et qui ne l'avait pas observé. » Et là, ça fait mal. Jusque-là, les accusateurs ont écouté Étienne. Sa réponse à propos du temple était assez implicite, finalement, même si je pense qu'ils l'ont bien comprise. Mais ici, Étienne va prononcer sans trembler les paroles qui conduiront, quelques minutes plus tard, à sa mort. Alors qu'il a été accusé de mépriser la loi, Étienne accuse ses accusateurs d'avoir eux-mêmes méprisé la loi en faisant mourir Jésus, dans la continuité de ceux qui avaient fait mourir les prophètes par le passé. Alors que la loi invite à promouvoir la justice, à combattre le mal, les accusateurs d'Étienne, parmi d'autres, se sont rendus coupables de mettre à mort le seul véritable juste, Jésus-Christ. Celui-là même que la loi de Moïse annonçait, pour qui la loi de Moïse avait préparé le terrain. Et d'ailleurs, avant même le discours d'Étienne, le narrateur Luc nous avait donné un premier indice qui nous montre qu'Étienne n'est pas un adversaire de la loi, mais au contraire. Dans l'extrait que Marion a lu en premier, au chapitre 6, verset 15, il nous est dit que ceux qui regardaient Étienne juste avant son discours ont vu son visage briller comme celui d'un ange. On ne sait pas exactement ce que ça représentait, exactement ce qui s'est passé. Le texte est assez sobre et discret. Mais en tout cas, cela rappelle un épisode célèbre de l'Ancien Testament. Lorsque Moïse, en redescendant de la montagne où il avait reçu la loi de Dieu, avait le visage qui rayonnait, au point que les Israélites avaient peur de s'approcher de lui. Donc c'est comme si Dieu lui-même avait placé son sceau d'approbation sur Étienne en faisant briller son visage comme Moïse autrefois. Mais par une ironie tragique, ceux qui étaient censés être les garants de la loi de Moïse ont blasphémé Dieu lui-même en accusant Étienne de blasphème. Étienne donc a opposé une double réfutation à la double accusation dont il était l'objet. Mais ce qui est frappant au-delà de cela, c'est qu'il a voulu être témoin de Dieu jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est mon dernier point, un double témoignage. Ce qui frappe dans le discours d'Étienne, c'est qu'à aucun moment, son souci est de se défendre personnellement. Vous pouvez regarder tout le discours, il ne parle jamais de lui, pas une seule fois. Tout ce qu'il dit est axé sur l'œuvre de Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est de dire la vérité à propos de Jésus. C'est d'être son témoin, conformément d'ailleurs à l'ordre de mission de Jésus. Il a bien compris ce que Jésus avait dit. Alors que sa vie est en danger, il le sait très bien. Il sait très bien que ce n'est pas des rigolos là qui sont en train de l'accuser. Alors même que sa vie est en danger, il prononce un long discours où pas une seule fois il ne cherche à se défendre personnellement. Et il termine ce discours en tirant un boulet rouge sur ses accusateurs, sachant pertinemment comment ça allait finir. Pourquoi ? Ça paraît presque, on a envie de lui dire, mais attends Étienne, tu peux peut-être mettre un peu d'eau dans ton vin, peut-être en reparler avec eux calmement une autre fois. L'exemple d'Étienne doit nous faire réfléchir. Est-ce que notre priorité absolue en tant que chrétien, là je parle bien sûr à ceux d'entre nous qui sont chrétiens, est-ce que notre priorité absolue est que Jésus-Christ soit annoncé autour de nous ? Est-ce que lorsque notre foi est accusée, mise en doute par nos contemporains, est-ce que notre souci premier c'est d'affirmer la vérité à propos de Jésus plutôt que de chercher à nous défendre nous-mêmes ? Est-ce que nous avons compris que en confiant notre vie à Jésus, nous avons fait de lui la priorité absolue de notre vie, que c'est son honneur, sa réputation, son message salutaire que nous voulons faire passer avant tout. Ça a toujours été un défi de faire placer Christ avant soi. Peut-être que le défi est plus grand que jamais à l'heure de Twitter et Facebook, etc. On est encouragé tout le temps au maximum à se mettre en avant soi-même. Alors qu'ici, Étienne met en avant Jésus à chaque instant. Il y a un autre témoignage présent dans ce texte. C'est celui que Dieu lui-même rend à Étienne. On a déjà parlé du visage d'Étienne qui brillait comme celui de Moïse autrefois. Une façon par laquelle Dieu déjà a placé son sceau d'approbation sur lui. Mais Étienne, quelques instants avant de mourir, va aussi entrevoir Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et d'ailleurs, c'est cette vision rapportée par Étienne qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour ses accusateurs. On voit qu'ils vont se boucher les oreilles tellement ils ne supportent pas ce qu'Étienne est en train de dire. Et ils vont le lapider. Il y a un petit détail qui paraît presque insignifiant quand on lit le texte comme ça, mais qui est sans doute lourd de sens. Jésus, dans la vision qu'Étienne reçoit, est debout à la droite de Dieu. Or, lorsque le Nouveau Testament nous parle du règne de Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit généralement que Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors ce sont des images, bien sûr, on ne sait pas ce que ça représente exactement dans la réalité céleste. Il s'agit de parler du règne de Jésus. Cette image de Jésus assis à la droite de Dieu nous est donnée pour montrer qu'il règne de façon, qu'il règne en tant que roi et qu'il a reçu de Dieu toute autorité sur l'univers, comme d'ailleurs il l'a dit après sa résurrection à ses disciples. Mais ici, dans la vision qu'Étienne entrevoit et qu'il rapporte à voix haute, ça va être sa perte. Là encore, il aurait pu garder la vision pour lui, mais non, il veut témoigner. Il le dit à voix haute. Et bien dans cette vision, Jésus est debout. Et d'après plusieurs commentateurs, cette vision de Jésus debout a du sens. Elle sous-entend qu'il est en train de lui-même rendre témoignage à propos d'Étienne auprès du Père. Il est comme l'avocat d'Étienne en train de plaider pour lui. De façon mystérieuse, il communique à Dieu le Père qu'Étienne est son enfant et qu'il est juste en vertu de sa foi en Jésus. Qu'il est acquitté de tout ce qui avait pu le séparer de Dieu, réconcilié pleinement parce qu'il a placé sa foi en Christ qui est mort et ressuscité pour lui. Si nous pouvons témoigner de Christ, c'est parce que Christ, en premier lieu, témoigne de nous auprès du Père. Un réconfort extraordinaire. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» Romains chapitre 8. « C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est dans ce passage ensuite que Paul va dire, l'apôtre Paul va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le chant qu'on a chanté tout à l'heure nous rappelle ces paroles. Et souvent, quand on entend ça, on pense un peu à une idée de conquête. Ah, si Dieu est avec nous, personne ne va nous résister, etc. Or, dans le contexte, il s'agit d'un vocabulaire juridique. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, si Dieu est en notre faveur, si Dieu nous déclare juste, qui pourra être contre nous? Qui pourra plaider en notre défaveur? Et donc cette réalité qui est vraie pour tout chrétien d'un point de vue spirituel, Étienne l'a entrevue par une vision juste avant de mourir. Je voudrais conclure en évoquant un dernier témoin dans ce texte, plus discret. Et je lis le verset 58 du chapitre 7, page 1070. Ils chassèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Un peu plus loin, au chapitre 8, verset 1, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Qui est ce jeune homme appelé Saul qui est témoin et complice de la lapidation d'Étienne? Eh bien, c'est lui qui va devenir l'apôtre Paul, après avoir rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, comme le chapitre 9 nous le dira. Jésus-Christ a choisi de faire de ce jeune homme, qui était un militant antichrétien virulent, son envoyé auprès des nations païennes. Il y a là quelque chose de vraiment saisissant. Ça nous montre que ces gens qui étaient là dans cette foule et qui accusaient et lapidaient Étienne, il y avait aussi un espoir pour eux. Et au moins un d'entre eux, et on peut espérer d'autres, ont fini par se tourner vers Jésus. Notons bien, rappelons-nous que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Même les personnes les plus hostiles à la foi chrétienne ou les plus indifférentes sont concernés par l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et c'est un rappel utile pour nous, lorsque nous pensons peut-être à certains de nos proches, qui nous paraissent irrémédiablement loin de Dieu. Même Saul, qui approuvait le meurtre d'Étienne, qui militait pour que les chrétiens soient mis à mort, est devenu lui-même apôtre de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour l'exemple qui nous est donné, ce témoignage. Et même si peut-être que nous ne nous retrouverons pas dans des situations semblables à celles d'Étienne, sous menace de mort, encore que c'est possible, eh bien nous voulons être tes témoins, quoi qu'il en coûte. Et lorsque les personnes autour de nous nous interrogent quant à notre espérance, et dans certains cas nous accusent, nous critiquent, aide-nous à ne pas chercher à nous mettre hors de cause nous-mêmes, mais avant tout, à dire la vérité sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Paul va faire les annonces.
Bonsoir. Quelques annonces pour ces prochains jours. Il y aura donc un repas à la suite, et donc l'idée c'est d'avoir un repas, tirer les sacs, mais il y a généralement plus qu'il en faut, donc si vous n'avez pas de repas, pas de soucis. Venez quand même. Lundi, et bien ça c'est un lien avec le message qu'on a entendu. Il y a un petit groupe qui va faire des questionnaires sur la place devant la gare de Montparnasse. Et j'aimerais juste mentionner rapidement une affirmation que j'ai eue la dernière fois que je suis allé.